Radio Galère 88.4.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. J'ai pas bien suivi à quel point vous aviez été informé du déroulé des événements, mais du coup après cette brève introduction, là on avait envie de se donner un temps où on donnait la parole à différentes personnes, différents membres de différents collectifs qui sont liés par leurs actions politiques, leur trajectoire de vie, etc., à des conflits armés et militarisés dans différents contextes. Et donc là, ça nous paraissait important de pouvoir ne pas parler de la guerre que de manière abstraite, mais aussi de voir comment est-ce que ça s'inscrit concrètement dans des territoires et comment est-ce que l'impérialisme français occidental vient intervenir dans tous ces différents contextes et de faire ce lien dans des expériences vécues. Donc merci beaucoup à vous quatre d'être là. Et il y avait plein d'autres collectifs qui auraient pu venir, qui ont été invités, etc. Donc ça nous paraît important de prolonger ces discours, ces discussions, et que tous les récits de collectifs, de solidarité, d'organisation contre la guerre nous paraissent importants à prendre en compte, à écouter. Et je pense que dans des événements ultérieurs, d'autres situations pourraient être nommées, mais ici, nous, on est ravis que vous soyez là, toutes les quatre. Et nous n'avons pas spécialement organisé d'ordre, mais je vous propose, si ça vous va, qu'on fasse de la droite vers la gauche. Si ça te va, Karine, de commencer. Et du coup, Karine, tu es dans un collectif qui essaye de poser les questions de comment est-ce qu'on parle ici de ce qui se passe en Kanaky et comment est-ce qu'on se mobilise en solidarité. Donc je te laisse te présenter et présenter un peu les enjeux.
Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation, parce que Kanaky, c'est un sujet qu'on en parle, enfin qu'on ne connaît pas souvent, donc du coup merci pour l'invitation à Guerre à la Guerre. Donc moi je suis Karine, je suis originaire de Calédonie, je suis Kanak du pays, et je vis ici en France depuis un moment, mais on a vécu les derniers événements difficilement. Parce qu'on a vu le racisme, la militarisation d'une petite île de quelques kilomètres carrés. Et on a vu débarquer un bataillon sur le territoire qui a été vraiment... On parle de militarisation, on aurait pu penser qu'on était en Ukraine, mais on était en Nouvelle-Calédonie, Kanaky. Voilà. Donc Kanaky, c'est 172 ans de colonisation brutale par la France. Il y a eu des spoliations de terres, génocide des clans, viol de femmes, période, on a eu aussi une période de l'indigénat. Notre peuple Kanak était parqué dans des réserves. Ils étaient contraints de demander aux gendarmes coloniaux afin de pouvoir sortir des réserves. Il y avait aussi des travaux forcés. En 1946, fin de la période de l'indigénat et les premiers Kanaks ayant le droit de vote en 1957. L'armée coloniale est de nouveau présente en Kanaky de 84 à 88. 90 morts durant cette période dite des événements, liés à une volonté unilatérale de l'État colonial français d'ouvrir le corps électoral par le statut Le Moine en 1984. Le statut Ponce en 1988. La présence militaire est forte. Déjà pour la période des événements en 88, il y avait 300 militaires sur la petite île d'Iaï, de 400 km², de long qu'on appelle Ouvia. C'est là qu'il y a eu plus de morts, 19 personnes tuées lors d'une attaque de la gendarmerie, suite à l'attaque de la gendarmerie. Après la signature de différents accords, l'accord de Matignon signé en 88, l'accord de Nouméa signé en 1998, il y a eu une période de stabilisation militaire et politique. L'accord de Nouméa signé en 88 est un accord de décolonisation. Il prévoit 3 consultations référendaires. Il y a eu en 2018 où le oui à l'indépendance a obtenu un score de 43%. puis en 2020, 47% de oui à l'indépendance. Et en 2022, le référendum ne s'est pas tenu à la date prévue. L'État français a avancé le référendum à 2021 en pleine période de crise de Covid. Donc le peuple kanak n'a pas participé. Plus de 90% ont contesté en fait le vote. Donc ça, c'est lié à un processus de contestation, mais aussi pour respect à notre coutume et nos traditions coutumières. C'est le premier affront au peuple kanak. En 2022, l'État français, par le biais de Macron, nomme Sonia Bakès, c'est la personne qui est élue en province sud, qui gère la province sud. Elle est élue chef de file des non-indépendantistes et elle a été nommée en tant que secrétaire d'État à la citoyenneté du gouvernement. C'est aussi un affront, puisqu'il y a une problématique d'impartialité du devoir de l'État. L'État là n'a pas été impartial du tout. Ensuite, en 2023, le ministre Darmanin veut ouvrir le corps électoral à nouveau, à une population extérieure au pays. Ce qui n'est pas possible pour notre pays, vu que nous sommes inscrits sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser depuis le 2 décembre 1986 à l'ONU. Et nous sommes dans un processus de décolonisation. Aujourd'hui, comment s'organise la résistance kanak? La résistance kanak se remet alors en place à ce moment-là, avec la mise en place de la cellule de coordination des actions de terrain. Ça, c'est en 2024. Avec à sa tête M. Thien Christian, qui est l'actuel président du FLNKS. Plus d'une dizaine de marches pacifiques auront lieu du 25 novembre 2023 au 8 mai 2024, avec plus de 60 000 personnes, ce qui est assez rare pour une petite île comme ça. Donc, ils sont descendus dans le centre-ville, c'est-à-dire Nouméa, la capitale, pour dire non à ce projet de loi constitutionnelle relatif à l'ouverture du corps électoral. Toutes ces mobilisations se sont faites pacifiquement, je le rappelle, et sans débordement. La nuit du 12 au 13 mai, des affrontements ont eu lieu entre les jeunes de quartier de Montravel et les forces de l'ordre. Et en même temps, les premières entreprises brûlent. Une première dans l'histoire de la lutte indépendantiste, ce qui n'a pas été le cas dans le premier événement en 1984. Une première dans l'histoire, donc plus de 12 morts kanak, dont 5 d'une balle à la tête. Voici ce que la milice pro-française et les forces de l'ordre, ont fait dans notre pays. Des milliers de personnes arrêtées, des centaines de personnes blessées. Au total, 6000 forces de l'ordre ont débarqué en Kanaky. Donc vous voyez la proportion, 6000 pour une petite île. Si vous le ramenez ici en France, ça fait presque un policier par personne. Plus de 6000 forces de l'ordre ont débarqué en Kanaky. L'enquête est en cours sur ce qui s'est produit sur Nouméa. Mais une chose est claire, c'est que la situation est bénéfique pour certains, mais pas pour nous, les indépendantistes. L'État colonial français a déporté Christian Théin et les camarades responsables et militants de la CCAT dans les geôles françaises afin de mater la lutte indépendantiste. Plus d'un an dans les prisons françaises et surtout en isolement. Voilà la sentence qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement en place. Déporter des militants à 17 000 km de leur pays. Il faut rajouter que des prisonniers déjà en camp Est, c'est-à-dire la prison locale, ont été aussi transférés ici en métropole. D'ailleurs, un jeune est décédé la semaine dernière dans une des prisons où il était, à Varennes-le-Grand. Il a été retrouvé mort dans sa cellule. Une triple peine pour nous, quand on voit que tout ce qu'il subit depuis Nouméa jusqu'ici. Aujourd'hui, le pays est en phase de reconstruction. L'État français maintient les forces armées dans le pays en cas de soulèvement, vu qu'il n'y a toujours pas de stabilité politique dans le pays. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2 ans maintenant. Il n'y a pas eu de renouvellement concernant les représentants de l'État, les députés notamment. L'État français, via le ministre de l'Outre-mer, tente de faire du chantage économique pour pousser à fond l'acceptation par le peuple kanak de l'accord de Bougival avec le complément de l'Élysée Oudinot. Mais la dignité du peuple kanak qui veut sa liberté ne se paye pas à coups de milliards de l'État. Aujourd'hui, les forces policières et militaires continuent de faire de la répression avec des contrôles de faciès tous les jours. Le verrou de Saint-Louis, voilà, un petit village à côté de Nouméa, village de Saint-Louis verrouillé, est toujours en place depuis un an. Les gens des tribus doivent présenter la pièce d'identité en rentrant et en sortant de la tribu. Aujourd'hui encore, à la rentrée scolaire, des policiers étaient devant chaque établissement scolaire pour fouiller les cartables des élèves. Une véritable aberration dans un pays qui se dit pays des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, le FLNKS vraiment rejette l'accord de Bougival, rejette Oudinot et le complément de cet accord-là, qui est l'Élysée Oudinot, pardon, il y a tellement les noms sont compliqués. Et donc cet accord veut vraiment donner aux provinces, parce qu'on est départagé en provinces, veut donner le pouvoir aux provinces de créer une police provinciale. Ce qui serait, comment dire, un contresens à la volonté de décolonisation. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine, pour cette prise de parole. Est-ce que... Il y a pour la personne dont tu as fait mention qui est morte en prison, il y a une cagnotte qui circule. Est-ce que tu as un lien que tu...
J'ai un lien que je pourrais partager.
Voilà. On vient te voir après pour... si vous êtes intéressé, il y a un lien qui circule et n'hésitez pas à venir voir Karine dans un deuxième temps. Continuer ces prises de parole, on est ravis de pouvoir aussi t'accueillir, Manal, et que tu puisses venir aussi partager cette lutte et la solidarité que vous essayez de construire ici vis-à-vis de ce qui se passe au Soudan. Et donc tu fais partie de cette association qui s'appelle Sound of Soudan, que je te laisse présenter.
Merci beaucoup, Guerre à la Guerre, pour l'invitation. Pour que je partage avec vous qu'est-ce qui se passe au mon pays, le Soudan. Moi, je m'appelle Manal Shamseldine. Je suis ici comme membre représente l'association Sound of Soudan. En parlant du Soudan, le Soudan aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un théâtre de la plus grande crise humanitaire mondialement. Une crise humanitaire et de déplacement dans le monde entier à cause d'une guerre violente, meurtrière et destructrice qui a débuté le 15 avril 2023 et qui entrera bientôt dans sa quatrième année. Je m'excuse si j'ai un accent, si je fais des erreurs en français. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Je suis fière de ma langue. Et deuxième langue, pour moi, c'était l'anglais que j'ai appris petite. Et le français, c'est mon troisième. Alors, pour cette guerre violente au Soudan, en résultat, 86% de totale population soudanaise, qui sont de 44 millions, actuellement ont besoin d'aide humanitaire. Des structures médicales, hospitalières, scolaires et universitaires ont été détruites. Près de la moitié des enfants en âge scolaire ont passé plus de 50 jours sans mettre les pieds dans une salle de classe. En février 2026, on dénombrait 9 millions de déplacés internes, 4,5 millions de réfugiés dans les pays voisins et 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Et ça, ce ne sont pas des chiffres, ça, c'est des personnes. qui souffre et qui subit tous ces résultats de la guerre. Les civils sont exposés au risque d'exécution, de violences sexuelles systématiques, surtout contre les femmes, des détentions arbitraires et de séparations familiales. C'est une guerre de ressources, une guerre coloniale négligée à l'échelle mondiale. Et on l'étiquette de guerre civile. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une simple guerre civile. En surface, on voit deux généraux, un de l'armée, c'est la force armée soudanaise, dite le FAS, et un autre d'une milice paramilitaire créée par cette armée elle-même, ça s'appelle Force de soutien rapide, le FSR. Ça, c'est en surface. Mais en réalité, ce sont des forces externes qui soutiennent les deux camps. Le Soudan est un pays riche en ressources, d'eau, terre fertile, d'or, des minéraux. Et d'ailleurs, le Soudan est le premier producteur mondial de gomme arabique, dont toute la production est principalement exportée. La lutte pour le contrôle des ressources aurifières est l'une des causes principales du conflit. L'or est une source de financement essentielle pour les deux parties du conflit. Par ailleurs, des acteurs internationaux, dont des compagnies russes, ont indirectement soutenu ces factions en échange de concessions minières. La majorité de l'or est importé vers les Émirats arabes unis. Et malheureusement, c'est un parallèle, l'argent n'entre pas dans les caisses de la Banque centrale du Soudan. Les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte s'opposent aux médiateurs de paix pour le Soudan, alors qu'ils sont, comme la France, parmi les profiteurs qui alimentent la guerre. Malgré l'embargo contre l'acheminement d'armes au Soudan, des matériels militaires français produits par KNDS a servi contre les populations soudanaises. N'oublions pas aussi les jugements qui étaient contre le groupe BNB Barinipa, qui étaient jugés complices des actions, des exactions au Soudan. Parce qu'ils ont planifié des transactions commerciales qui ont financé l'armée et ses milices. Et ça, c'était pendant la période du dictateur al-Bashir entre les années 1990-2009. Bashir a continué plus long que ça. D'ailleurs, des pays africains voisins du Soudan jouent le même jeu d'intérêt pour les ressources, soutenus par des pays riches comme les Émirats arabes unis. On le voit dans l'exemple récent de découverte d'un camp d'entraînement de FSR situé dans la région isolée de Benchengalu Gumos en Éthiopie. C'est à 32 km de la frontière soudanaise. Des travaux ont également été observés à l'aéroport de Azouza depuis août 2025, incluant la construction des hangars et d'air adaptés aux opérations de drones. La diminution des fonds alloués à l'aide humanitaire par les États-Unis ou l'Europe aussi a des répercussions sur l'aide apportée aux réfugiés soudanais, notamment en Égypte, qui accueille actuellement le plus grand nombre de personnes fuyant le Soudan. Et à cause de ces diminutions de fonds, cependant, de sévères réductions budgétaires ont contraint le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, à fermer deux de ses trois centres d'enregistrement en Égypte, ce qui a affecté l'accès des personnes aux services de protection essentiels. Par ailleurs, la police égyptienne se montre de plus en plus agressive envers les Soudanais considérés comme n'ayant pas les papiers. En Grèce, Des réfugiés soudanais sont emprisonnés avec des peines d'emprisonnement de plusieurs centaines d'années. Aussi, côté aide alimentaire, le programme alimentaire mondial, le PAM, risque bientôt d'arrêter l'aide alimentaire pour tout le Soudan. Aux frontières du Tchad, où aussi il y a d'autres aussi, vagues de réfugiés soudanais, l'aide est limitée faute de financement. Genre le 800 milliards qui était mentionné tout à l'heure qui, pour le financement de guerre mondialement, juste 10% de ça serait suffisant pour l'aide humanitaire et pour aussi provenir des milliers de décès. Un jour, les combats continuent au Soudan. Et de nouvelles lignes de front ouvrent partout dans le pays, dans les états de Darfour, de Kordofan, de Nil Blanc, de Nil Bleu. Dans tout le pays, la population fait face au manque d'infrastructures de santé, d'éducation, d'eau potable, d'électricité, de nourriture. Et en dessous de tout cela, là, il y a l'insécurité à cause de la guerre. La vie est très chère. Il y a une pénurie de carburant et de moyens de communication sont limités. Internet ou même des appels téléphoniques. Les personnes déplacées se rassemblent dans des sites surpeuplés où les soins de santé sont insuffisants. Les conditions d'hygiène précaires et l'accès à l'eau potable limité. Plus d'un tiers des structures de santé ne sont toujours pas opérationnelles. Tout cela rend les populations vulnérables aux maladies, à la malnutrition, aux épidémies de paludisme, de choléra et de la dengue. Cette guerre est survenue à la suite d'une révolution populaire en 2019, au cours de laquelle les Soudanais ont renversé le dictateur al-Bashir. C'était une dictature de 30 ans. Et un régime islamiste repressif. Cette révolution a uni les Soudanais et a montré leur courage au monde entier. Mais un coup d'État par les militaires en 2021, puis l'éclatement de la guerre le 15 avril 2023, est venu interrompre une transition vers un gouvernement civil. Une guerre extrêmement violente et destructrice où succèdent les massacres. En 2023, le génocide de la communauté massalite a eu lieu au Darfour. 15 000 morts dans quelques jours. En 2025, il y avait les atrocités systématiques commises contre les civils Al-Fashir, la ville Al-Fashir au nord Darfour, après 18 mois de siège de cette ville. Cette guerre au Soudan s'inscrit dans la triste tendance de son monde à se diriger vers un monde sans droit humanitaire et sans règles internationales. Un monde où règnent les riches et les puissants. La vie humaine est réduite à néant au profit des intérêts liés aux richesses et des terres. Qu'il s'agisse au Soudan, de la Palestine, de la République démocratique du Congo, de l'Ukraine, du Yémen, de la Syrie, du Venezuela, du Kanaké, etc. Mais nous ne devons pas accepter cela. Cela ne doit pas devenir la norme. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup, Manal. Est-ce que, par hasard, tu as une date de prochaine mobilisation ou un endroit où on peut suivre les informations pour d'autres moments où on peut prolonger ce combat ?
Une date là, tout de suite, je ne peux pas donner. Mais pour suivre l'association Sound of Soudan, Sound of Soudan se trouve sur Instagram, sur Facebook, un site internet aussi, sound-of-soudan@ .org, pardon, .org. Il y a aussi le site de Soudfa Media. C'est aussi ce site avec les informations sur le Soudan et les actualités, ce que je peux donner tout de suite là. Nous avons, il y a une idée, mais quand ça se confirme, je pense que les infos vont circuler sur Soudfa Media, sur SOS, d'organiser quelque chose autour de la journée de femmes, le 8 mars. Mais ça sera avant. Ouais.
Merci beaucoup. Merci. Et pour prolonger, ben, on est encore une fois ravis d'avoir avec nous Fadouin, et qui va prendre la parole pour ce qui se passe en Palestine. Et merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup de m'avoir ici. Je m'appelle Fadouin et je viens de la ville de Naplouse, en Palestine. On dit que c'est en Cisjordanie, mais moi je ne crois pas en ces termes. Je n'aime pas Cisjordanie, je n'aime pas Bande de Gaza, c'est Palestine et c'est tout. Mais pour vous localiser, c'est au nord de la Cisjordanie. Bon. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la Palestine, de ma vie là-bas, et en présence de l'armée israélienne, en présence des colonies qui entourent les villes et les colons. Le projet de cet État, le mur d'apartheid et la guerre constante contre ma communauté. En fait, je me suis demandé où commencer. On sait beaucoup de choses sur la Palestine, mais on entre beaucoup dans la malcompréhension aussi. C'est toujours la question pour moi, et qu'est-ce qui est le plus important à souligner pour les internationaux qui luttent avec nous et qui nous soutiennent? Et donc, quel objectif on parle? Parfois, avec la Palestine, on parle de beaucoup d'injustices. C'est interminable, en fait. Et on sait pas quoi faire. Mais ce sont des questions à se poser quand on travaille ensemble. Contre la guerre, contre l'injustice d'un groupe ultra-militariste, contre une population sans armes. Je peux d'abord vous faire partie de témoignages d'une amie à moi, Ala, qui vit à Ramallah et dont la famille habite à Naplouse. Et elle travaille dans le milieu pharmaceutique et elle doit se déplacer tous les jours entre les villes palestiniennes, comme par exemple Hébron, Jéricho, Naplouse, Ramallah. Ce témoignage date d'aujourd'hui et Ala s'adressait à moi en me disant ce qui me dérange le plus dans mes déplacements, c'est les checkpoints. Parce que passer par eux prend énormément de temps, surtout les jeudis, l'équivalent de vendredi ici. Et aussi, ce mercredi, par exemple, était le premier jour de Ramadan, et je n'ai pas pu rentrer chez moi qu'après la rupture du jeûne, à cause d'un checkpoint à Ain Sinia, où j'ai passé 2 heures. Ce qu'il faut comprendre, que pour sortir d'une ville, il faut d'abord savoir quel checkpoint est ouvert. Et pas que ouvert, mais laisse passer les voitures, parce que ça dépend de l'humeur de soldats qui ont la plupart du temps 18 ans. Du coup, il y a des groupes, par exemple sur Telegram, où les gens communiquent entre eux quel checkpoint est ouvert, et parfois elle me dit, mon amie, qu'elle tourne en boucle d'une sortie à l'autre, jusqu'à elle puisse sortir. Et c'est la même histoire quand on arrive à la ville de destination. Il faut trouver encore une fois le checkpoint ouvert. Et pour ça, on regarde, comme elle dit, sur les télégrammes. Et normalement, même si c'est ouvert, comme j'ai dit, ça prend énormément de temps. Et on ne parle pas d'une guerre ici. On parle de la vie de chaque jour. Ce n'est pas un phénomène temporaire. Un autre phénomène sur les routes, c'est les colons et l'harcèlement des colons sur la route. Aujourd'hui, par exemple, elle dit, aujourd'hui, on est le samedi. Et comme je t'avais dit tout à l'heure, je suis contente que les routes soient ouvertes et qu'il n'y a pas d'armée ni de colons aujourd'hui, parce qu'ils font le Shabbat. Et ça fait toute la différence par rapport aux autres jours où les colons t'entourent, t'harcèlent, soit ils bloquent la route encore, soit ils t'insultent avec des signes comme le doigt d'honneur, ou sinon en voiture, ils se rapprochent de toi et te menacent avec la voiture. Et te causent de la peur et parfois des accidents. Et c'est juste des exemples, c'est pas tout. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas sortir sur les routes externes parce qu'ils ont des crises de panique et crises d'angoisse à cause des colons. Elle dit, par rapport à moi, je suis à ce point où rien ne m'affecte, je n'ai pas peur d'eux, j'ai la peau dure. Du coup, comme j'ai dit, ce témoignage date d'aujourd'hui, mais ça n'inclut pas l'invasion des colons ou l'armée dans les villes palestiniennes ou les villages, où juste hier, un cousin de notre ami est tué pour avoir tenté de défendre son village à Mihmas. Les colons sont la plupart du temps protégés par l'armée israélienne qui regarde et fait rien. Je ne parle pas de l'arrachement fréquent des oliviers qui date de temps même avant Israël. Je ne parle pas des attaques des troupeaux, des moutons, ni des villageois qui sont seuls face à des monstres. Je veux juste vous encourager d'aller là-bas, de documenter, de regarder ça de vos yeux, parce qu'il faut jouer le système jusqu'à ce que ce système s'effondre. Les injustices auxquelles les Palestiniens font face sont infinies. J'ai personnellement 3 amis maintenant en prison, en détention administrative. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement et il n'y a rien en fait pour eux. Ils sont en prison depuis plus qu'un an et on ne sait pas quand ils vont sortir. Et ils sont 3 hommes de moins de 30 ans, le groupe qui est le plus visé en Palestine. Je prétends pas non plus de savoir parler de l'expérience d'un ou d'une Gazaoui. J'ai jamais vécu là-bas, je suis jamais allée à Gaza parce qu'on est géographiquement séparés d'eux. J'ai jamais vécu les bombardements constants. Et même si parfois on voyait les missiles ou on les entendait, mais on a l'impression qu'ils sont face à un génocide dans un autre monde. Comment on peut accepter une telle dissonance cognitive, médiatique, géographique, politique, où l'humain vaut rien? Les Palestiniens en Europe, c'est un autre sujet, mais ils sont très mal compris. Il y a beaucoup de dialogues avec Israël, beaucoup d'échanges, de relations avec les institutions israéliennes, soit culturelles, économiques, académiques, sans parallèle avec la Palestine, qu'on réduit souvent à l'islamisme, au terrorisme et dans les meilleurs des cas à l'occupation et la colonisation. Mais on n'est pas réduit à ça. La culture palestinienne est beaucoup plus riche. On a plein de poètes, d'intellectuels, des gens qui font beaucoup avec très peu de moyens. Je vous invite à découvrir, par exemple, Moussaab Abou Toha, Fadwa Touqan, Mohamed El Kord, Marwan Barghouti, le mouvement BDS en Palestine, l'université de Bir Zeit avec sa campagne de droit à l'éducation, l'université Al-Najah, le conservatoire Edouard Saïd pour la musique, le théâtre Ashtar, le cirque palestinien et plein plein d'autres exemples. Moi je vous suggère ça, mais je sais que c'est trop peut-être, mais allez vivre là-bas, allez voir pour vous-même. Mêlez-vous à notre destin. On a besoin de tout le monde, parce que ce qui arrive là-bas, ce n'est pas naturel. Et ce qui fait tester là-bas arrivera un jour en Europe. C'est fait par les humains qui ont des mauvaises intentions. Et on peut tous ensemble renverser. Et je voudrais vous poser la question. Pourquoi on ne parle pas plus souvent en France d'une solidarité entre les Juifs et les Palestiniens? Pourquoi est-ce que les gens nous poussent les uns contre les autres? Dans la culture palestinienne, on valorise l'ouverture, l'accueil de l'autre et la solidarité contre l'injustice, n'importe laquelle. Il faut toujours se méfier de ceux qui profitent de la séparation entre les gens. Et nous, les Palestiniens, on le sait, les populistes, les nationalistes, on s'en méfie. À la fin, j'aimerais vous rappeler que les Palestiniens ne sont pas réduits à des victimes, ni des victimes parfaites, obéissantes, ni des victimes vicieuses qui cherchent la vengeance. On aime la vie et on aime la joie, comme disent tous les Palestiniens. On rigole beaucoup aussi. Et on est solidaires avec tous les peuples opprimés. Mais on garde notre doigt à la colère, à la révolution, parce qu'on est têtu sur notre existence, sur notre culture, sur notre attachement à la terre. Et ça ne va pas changer jusqu'à ce qu'on soit libre. Merci.
Ben, merci infiniment pour ce partage. Et toi, tu ne fais pas spécialement partie d'un collectif, mais peut-être tu as quand même une date ou un événement ou quelque chose auquel tu as envie de renvoyer ou,
Je sais que tous les dimanches, à Marseille, il y a les manifestations qui commencent à la Porte d'Aix à 14h. Et moi, je le dis souvent que parfois, je suis trop fatiguée d'aller faire ces manifestations moi-même. Parce que dans tous les jours, comme tous les peuples opprimés, l'existence est lourde et fatigante. Du coup, j'encourage tous les gens qui ont de l'énergie d'aller à ces manifestations, même si vous n'allez pas avoir tout le temps des gens comme moi. Mais votre présence est tellement précieuse et ça rappelle qu'on n'est pas seul et c'est important. Merci.
Merci. Et du coup, pour conclure ces partages ces témoignages, on te donne la parole, Guigui, qui fait partie de l'association Survie et qui nous revient il y a une petite quinzaine de jours des Comores. Et je te donne la parole et merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup. Merci à votre organisation au collectif Guerre à la Guerre de nous donner cette possibilité de nous exprimer, de dire des choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de dire. Moi, je vis 8 mois sur 12 aux Comores et je viens en France pour environ 4 mois. Donc là, comme c'est tout récent, les éléments d'ici, je les apprends maintenant, mais par contre, les éléments des Comores, j'en ai plein la tête. Et je suis militant de survie depuis longtemps, depuis le temps de Verschave, où j'étais à la direction avec lui. Et aux Comores, aujourd'hui, je suis le secrétaire général du comité Maoré, qui se bat pour chasser le colonialisme français de Mayotte et des Comores pour l'intégration de Mayotte dans son giron naturel. Je ne vais pas vous faire l'histoire des Comores parce que ce serait trop fastidieux de raconter toutes les magouilles, toutes les crasses que l'impérialisme français a fait chez nous. Je vais me contenter de dire que de 1841 à 1974, il y a eu une occupation directe, coloniale, des Comores dans leur ensemble. Et avec les déplacements de population, les tueries, tous les crimes qu'il y a pu y avoir. Le 22 décembre 1974, il y a eu un référendum qui demandait si les Comores voulaient rester françaises ou indépendantes. À 96%, les Comores ont dit oui à l'indépendance. Mais là-dedans, la France a trouvé une nouvelle magouille pour dire non, non, on va garder Mayotte. Comme si, quand il y a eu Maastricht, les 50, quelque chose ou les 51%, n'ont pas suffi pour que toute la France applique les décisions de Maastricht. Mais là-bas, aux colonies, 96%, ça ne suffit pas. Donc, à partir de là, ont commencé de nouvelles manœuvres du colonialisme français qui, et là aussi, je ne vais pas donner tous les détails, mais qui implique aussi l'Europe parce que lors de l'indépendance et la reconnaissance des Comores à l'ONU, même les pays européens avaient reconnu l'intégrité territoriale des Comores composée de 4 îles, Anjouan, Mayotte, Mouéli et la Grande Comore. Et depuis 2011, Mayotte est devenue une zone, une RUP, région ultra-périphérique de l'Europe. C'est-à-dire ils sont partis avec la France contre l'unité des Comores. Et là, tous les pays européens sont là-dedans. C'est là qu'on comprend que ce qui les intéresse, ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas la reconnaissance des peuples et de leur intégrité, c'est l'économie, c'est les richesses qu'on peut exploiter. On a effectivement découvert qu'aux Comores, dans l'océan Indien et dans le canal de Mozambique, il y a beaucoup de pétrole et des gaz. Donc, à partir de là, à notre grand malheur, on nous met le grappin dessus. Et je voudrais juste, par rapport aux Comores et à Mayotte, souligner qu'il y a eu un visa Balladur qui, en 1995, a été mis en place et qui, jusqu'à aujourd'hui, a fait plus de 20 000 morts dans le bras de mer entre Anjouan et Mayotte. Et aujourd'hui, il est de notoriété publique, puisque même le président Azali en a parlé à l'ONU, que c'est la PAF, la police aux frontières, qui coule les bateaux de gens qu'ils considèrent comme des clandestins chez eux. Donc je ne vais pas prolonger la présentation là-dessus, mais dire que la France fait un crime contre l'humanité dans les Comores en séparant les populations, en sacrifiant des vies humaines et en les noyant, et en plus en occupant militairement Mayotte. Et c'est là mon point principal. Le fait, la militarisation de la région. La France est depuis toujours aux Comores. Elle avait trouvé une base générale sur les Comores. Au moment de l'indépendance, elle s'est repliée sur Mayotte. La Légion, la gendarmerie et toutes les forces françaises étaient à Mayotte. Et depuis l'année dernière, la France décide d'installer une base navale militaire à Mayotte. Et ça a correspondu avec le moment où il y a eu Chido. Chido, c'est cette tempête, ce cyclone qui a soufflé sur Mayotte et qui a ravagé l'île entièrement, où la France avait refusé l'aide des autres îles des Comores en disant « on a la Réunion et on verra comment on fait ». Et au bout d'une année, il n'y a rien eu à Mayotte, puisque même les bateaux qui venaient des autres îles des Comores étaient renvoyés. Et les Mahorais se sont retrouvés sans rien, même pas de toit, pendant une année. Et les gens commençaient à déchanter en disant « c'est ça la départementalisation, c'est ça la France ». Mais en même temps, la France décide de venir en aide, entre guillemets, en voulant implanter une base navale sur le sol comorien à Mayotte. Et là, ça a levé un tollé global des Comores, aussi bien à Mayotte que dans la partie comorienne. Quand je dis Mayotte, moi j'entends toujours Comores. C'est jamais Mayotte et les Comores, puisque Mayotte c'est dans les Comores, qu'on entende bien. Mais c'est pour spécifier comment la France cynique et séparatiste veut que les Comores entre elles ne s'entendent pas, parce que diviser c'est pour mieux régner. Et dans l'exploitation du pétrole, la France veut empêcher les Comores de gérer les blocs de pétrole qu'il y a entre Madagascar et les Comores, en disant « nous, on est les principaux propriétaires de cette zone-là, vous n'avez pas le droit de toucher à tel bloc ». La France aux Comores et à Madagascar et qui veut continuer à exploiter les biens de cette partie-là. Dans la politique coloniale française, la France veut s'implanter pas seulement aux Comores, mais à Madagascar, au Mozambique, et dans les pays riverains de l'océan Indien. On a vu quand il y a eu à Madagascar le président André Azuel qui a été déchu, c'est Macron, c'est la France qui l'a exfiltré. Qu'est-ce qu'elle faisait là, la France, sur des problèmes entre malgaches? Et la France a des intérêts à défendre, aussi bien à Madagascar qu'aux Comores et dans le canal de Mozambique. Et la militarisation des Comores, de Mayotte et de l'océan Indien est aujourd'hui un danger pour l'équilibre de cette zone qui a été déclarée pendant longtemps par l'ONU et les organes internationaux zone de paix. Aujourd'hui, ça devient une zone de guerre car il va sans dire que les autres puissances ne vont pas rester les bras croisés et laisser la France faire ce qu'elle veut dans l'océan Indien. Donc c'est la sonnette d'alarme que je tire, c'est de dire la militarisation des pays capitalistes, des pays européens et l'Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique, on voit mieux, même si on ne comprend pas toujours. Je me demande comment on peut ne pas comprendre. Mais on voit bien, l'Amérique s'est dévoilée comme exploitante et qui exploite toutes les zones du monde. Et la France, dans son giron de ex-colonie, veut s'y maintenir et déploie des manœuvres. On a parlé de la Kanaky, on peut parler de Guadeloupe, on peut parler de toutes ces régions-là. Et en Afrique, les pays de l'AES où la France veut déstabiliser pour maintenir sa position là-bas. Et comme elle a été chassée du Mali, du Burkina Faso, donc du Niger, aujourd'hui le Sénégal y pense, comme elle est chassée de cette région-là, elle entend implanter son armée dans l'océan Indien et principalement à La Réunion et à Mayotte. Donc c'est dire que la question de la militarisation et le danger que ça représente pour l'équilibre du monde est importante et que nous devons nous y pencher sérieusement. Je vous remercie.
Du coup, merci et même question pour toi. Est-ce qu'il y a une date, un site, un endroit où on peut suivre ce que vous faites et à laquelle on peut soutenir aussi?
Moi, je suis militant de Survie en France et je pense que Survie est une bonne référence pour les ouvrages, pour les manifestations qui se font et pour être colporteur des idées de défense de nos pays. Et je n'en rajouterai pas plus parce que je viens d'arriver en plus et je n'ai pas une vision très, très claire de ce qu'on peut faire ici encore. Merci. Survie suffit.
Je vous propose qu'on réapplaudisse collectivement cette assemblée et vous remercier. On vous remercie, franchement c'est super important et super précieux tous les témoignages et informations que vous nous avez partagés. Juste pour nommer, parce qu'ils étaient nommés sur l'affiche et du coup c'est pour aussi excuser leur absence, il y avait le CIMC, le collectif internationaliste Marseille-Kurdistan qui était censé nous rejoindre, qui n'a pas pu venir finalement. Et aussi on avait nommé sur l'affiche qu'il y aurait des prises de parole pour d'un collectif qui est en solidarité avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment et qui n'ont pas pu venir non plus. Et n'hésitez pas à aller voir le site web du CIMC pour avoir plus d'informations. Et sur les questions liées à l'Ukraine, ce n'est pas un collectif formellement constitué. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir me voir et je vous donne deux, trois références qui m'ont partagé.